Bonsoir à tous. Ce soir, on en est au Proverbe 26, donc on va voir ce chapitre et on va voir certaines autres choses. C'est un chapitre qui est assez original, je dirais, parce que c'est un petit peu comme si dans ce chapitre, il n'y avait rien de positif à en retirer. Donc, on va essayer d'en retirer quelque chose de positif, quelque chose qui va un peu nous instruire, nous faire aller de l'avant, et on va s'appuyer un peu sur d'autres choses. Alors d'abord, je vais juste vous lire les premiers versets, et puis je vais m'arrêter à chaque fois un petit peu au fur et à mesure. Et voilà, vous allez voir. Donc on va démarrer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Proverbe 26, verset 1, donc les trois premiers versets. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé ou un sot, selon les versions. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, et le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Donc, je m'arrêtais brièvement à cet endroit-là, juste pour dire que ces trois premiers versets, ça illustre un petit peu quelque chose qui est dans tout ce chapitre. C'est le fait que, comme je vous ai dit, ce n'est pas un chapitre qui apporte quelque chose de forcément de très positif, même s'il y a par contre, on va dire des avertissements, des conseils ou des exemples ou des contre-exemples, on va dire, plutôt des contre-exemples même. Donc, qui peuvent être qui peut être très intéressant pour nous et on va s'y arrêter brièvement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la manière dont les phrases, les maximes sont construites et puis on va dire l'ensemble du sujet, si on peut dire, qui est développé. En fait, c'est drôle, ça nous amène à chaque fois juste dans l'idée que voilà, ça, c'est comme ça, et en fait, ça n'aboutit pas. C'est pas à sa place, ça n'a pas de but, ça n'atteint pas le but, etc. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se retrouvent dans ce chapitre, en parlant de trois personnes différentes, ou les mêmes, pourquoi pas. Mais on va dire de trois catégories de personnes. Donc après, ça peut être tout à fait les mêmes, il n'y a pas de problème. Mais il est parlé du sot, de l'insensé, comme il est dit ici. Il va être parlé sur quelques versets du paresseux. On avait déjà lu ça, mais on relira ça parce qu'il y a des choses intéressantes. Et la troisième personne dont il est parlé, c'est du rapporteur. Donc là encore, on peut tirer des conseils à cet égard-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est une chose qui est importante peut-être à penser avec ce chapitre, avec d'autres endroits de la Bible, bien sûr, mais avec ce chapitre, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de phrases ou de déclarations très positives qui sont censées nous encourager, etc. C'est plutôt, ouais, on va dire, des formes d'avertissement ou des conseils ou des mises en garde, on va dire. Et donc, axé sur ces trois axes de personnes, on va dire. Donc, la chose qui se passe ici, c'est que je pense que c'est important de considérer que ces différentes personnes, le sot, le paresseux et le rapporteur, ce sont différentes personnes que nous pouvons être. Et vous savez, mercredi, on a parlé brièvement de Luc chapitre 7, à partir du verset 36, avec cette histoire où Jésus est invité chez un pharisien qui s'appelle Simon, où une femme de mauvaise vie intervient, fait des choses en tout cas au milieu de la situation du repas avec Jésus. Et puis Jésus rebondit là-dessus et donne une explication, un enseignement à Simon le pharisien. Et ce que je vous avais dit l'autre jour, donc, c'était que c'était intéressant pour nous de considérer que les trois personnes de cette histoire, ils sont en nous. Hein, donc Simon le pharisien, la femme pécheresse qui manifestement est plutôt dans une bonne attitude, et Jésus est en nous. Et je pense que ce chapitre 26 de Proverbe, c'est peut-être assez intéressant de le voir un peu avec ce spectre-là, et donc de se dire que ces différents avertissements, mises en garde qui sont mis, et donc les différents types de personnes qui sont caractérisées, définies, dépeintes, décrié en fait aussi, c'est nous, ça peut être nous à un moment, à un autre, en tout cas c'est en nous et ça risque de sortir facilement si nous n'y prenons pas garde Et si justement nous n'arrivons pas à ce qu'on va aller voir tout à l'heure, c'est le comment dire avec qui parlons-nous en fait. Donc je vais continuer un petit peu à défiler le chapitre 26 comme ça en faisant quelques petits commentaires et ensuite on va rebondir sur du sens. Donc verset 4, 4 et 5, ça va être deux versets très intéressants. Une chose qui est très intéressante dans ces deux versets, c'est qu'ils sont l'un à la suite de l'autre. Ça, c'est important. Parce que s'ils étaient à différents endroits de la Bible, on dirait qu'il y a une forme de contradiction dans la Bible. Et donc, vous allez voir, je vais vous lire le verset. Et en même temps, le fait qu'ils soient à la suite, ça signifie que c'est sciemment. Ça veut dire que ça a un but et ça veut dire que ça a un intérêt pour nous. Et nous avons besoin de réfléchir à l'intérêt que cela a. Donc, je vous lis les deux versets. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc c'est intéressant parce que vous avez deux versets qui se suivent et qui disent strictement l'inverse. Alors à un moment donné, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Ben, une chose qui doit être comprise, c'est celle-ci. C'est que, enfin, plusieurs choses à comprendre. Mais déjà, une chose, c'est que la vie avec Dieu, ce n'est pas un script à suivre. Ce n'est pas un texte prédéfini qu'il faudrait suivre, etc. C'est-à-dire que c'est une vie avec une personne et pas simplement suivre des indications. La deuxième chose, qui va sortir forcément de cet enchaînement de deux versets qui sont manifestement contradictoires, c'est que Dieu peut avoir des intentions différentes à un moment et à un autre. Mais une autre chose, ça veut dire que nous avons besoin de faire attention ou d'être concentrés et de chercher quelque part, comment dire, le timing. Rechercher le timing, c'est-à-dire, en fait, là, maintenant, c'est quoi la bonne chose, là, aujourd'hui? Peut-être que la même situation dans un an, il ne faut pas faire pareil. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, d'où l'important, comme je l'ai dit mercredi et ce soir, que les trois personnages de Luc 7 habitent en nous. Les trois personnages de Luc, chapitre 7, ils habitent en nous. Et ça, du coup, c'est important parce que nous pouvons trouver une solution. Parce que dans ces trois personnages, il y a Jésus. Et on va y revenir tout à l'heure. Donc, une autre chose si intéressante avec ces deux versets, c'est de se dire que je réponde ou que je ne réponde pas, que j'ai une attitude ou que j'ai une autre attitude, l'important, c'est peut-être pas ce que je fais, mais c'est pourquoi je le fais. Et du coup, ça, c'est une chose peut-être à considérer de manière un peu plus générale dans notre vie. Au-delà de ce que je fais ou ce que je ne fais pas, pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne le fais pas? Ce matin, certains d'entre vous êtes allés à l'évangélisation. Pourquoi je vais à l'évangélisation? Est-ce que j'y vais parce que c'est écrit sur le programme? Est-ce que j'y vais pour être bien vu? Est-ce que j'y vais par habitude? Est-ce que j'y vais parce que j'ai peur qu'on me juge? Est-ce que j'y vais parce que j'ai rien à faire le samedi matin? Peu importe. Où est-ce que j'y vais? Parce que quelque part, c'est le résultat d'une conviction que j'ai devant Dieu et qui m'a été donnée à travers les Écritures. Et après, évidemment, va rentrer, on va dire, à partir du moment où il y a des convictions, il y a des habitudes qui peuvent être mises en place, bien entendu. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, je prenais juste l'exemple de ce matin. Parce que c'était facile, et ça peut être la même chose pour aller à l'église, ça peut être la même chose pour plein de choses, en fait, et pour tout dans la vie chrétienne. Donc, voilà, une petite réflexion là-dessus. Verset 6, il se coupe les pieds, il boit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Donc là, on est sur le. Bon, il y a encore un verset. Oui, tout au moins un verset encore à lire, mais là, on est donc sur le chapitre, entre guillemets, ou en tout cas plutôt sur la portion dans le chapitre, qui parle du sot, de l'insensé. Hein. Et ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est mis en évidence, c'est le fait qu'il n'y a pas un but réel et qu'il n'y a pas d'efficacité dans ce qui est fait. Donc à partir du moment où on traite avec l'insensé, il n'y a pas d'efficacité. Il ne peut pas y avoir de résultat positif. Et on ne peut pas arriver à un but que l'on se serait fixé. Et force en est, par exemple, en plus, la manière dont les choses sont dites sont quand même assez fortes, puisqu'il est dit, il se coupe les pieds, et il voit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. Donc tu parles à un insensé, c'est comme si tu te coupes les pieds. C'est même pas assez inutile, c'est plus que inutile. C'est en fait, tu veux lui faire du bien, mais tu te fais du mal à toi à la fin. Le verset suivant, comment il dit ça? Ah oui, comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi une sentence dans la bouche insensée. Donc là, c'est plutôt quand l'insensé agit que l'on voit une inefficacité et un inintérêt total et un but qui ne peut pas être atteint. Parce que même une parole, et ça rebondit un petit peu avec le fait de parler ou de ne pas parler à l'insensé, mais même une parole qui serait correcte dans la bouche de l'insensé n'est pas efficace. C'est comme être un boiteux et pas marcher droit, quoi, si vous voulez. Et chose intéressante, au verset 8, il est dit, c'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. C'est vraiment faire quelque chose qui n'a pas de but. Si tu veux encourager, dire du bien de quelqu'un qui est un insensé, c'est comme si vous faites quelque chose qui n'a absolument pas de but. Pourquoi? Parce que attacher une pierre à une fronde, ça sert à quoi? Si la pierre, je l'attache à la fronde, ben elle va juste rester attachée sur la fronde. La fronde, elle va peut-être servir de collier éventuellement, pourquoi pas, décoratif, mais ce n'est pas terrible. Mais en fait, le but d'une fronde, c'est de mettre une pierre et de la jeter au loin pour atteindre un but. Donc, si vous attachez la pierre à la fronde, il ne peut pas y avoir de but atteint. Vous comprenez? Et bien là, c'est ce qui se passe. Même avec une parole correcte et bonne dans la bouche d'un insensé, le but ne peut pas être atteint. Ensuite, il nous a dit, donc verset 9, comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Donc ça signifie que là encore, les paroles dans la bouche de l'insensé font du mal partout, en fait. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage, donc qui prend pour caution les insensés. Et les premiers venus. On est en train d'élargir un petit peu. On parle de l'insensé, maintenant on parle aussi du premier venu, du quiconque qui passe. Et donc je vous ai dit que les trois personnages sont en nous. Donc ça veut dire que dans les personnages, dans les caractères qui sont en nous, en fait, si vous voulez, il y a effectivement, il y a la chair sous différentes formes. Et sous différentes formes, eh bien, nous avons besoin de considérer que ces phrases, ces sentences qui paraissent un peu excessives, on va dire, qui pourraient nous paraître ne pas nous concerner, bien nous avons besoin de considérer que ça nous concerne un petit peu parce que par moment, alors j'espère que ce n'est pas trop souvent, mais en tout cas c'est en nous, par moment nous sommes ce sot, nous sommes cet insensé. Et du coup, lorsque je suis dans l'état d'esprit, quand c'est l'insensé qui est en moi qui prend la première place, même une parole correcte, même une parole de la Bible, elle ne va pas atteindre son but. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu en moi qui parle. Ce n'est pas l'onction de Dieu qui parle. C'est moi en tant qu'insensé qui parle, qui dit peut-être des choses de Dieu, mais qui ne peuvent pas atteindre leur but. Donc du coup, c'est embêtant. Et c'est d'autant plus embêtant que la parole de Dieu a la Bible et la parole de Dieu et elle a pour but d'avoir un effet sur les personnes qui l'entendent. Elle a pour but d'avoir un effet et notamment un effet, on va dire, de délivrance, de guérison, de salut, d'être une parole d'encouragement, etc. Et on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, il nous est dit, au verset 11, ça c'est un verset qui est repris en 2 Pierre 2, 22, où il est rajouté une petite bricole. Et dans le contexte, il est parlé des apostats, des gens qui ont fait figure d'être croyants et qui finalement en fait s'éloignent et qui ne l'étaient peut-être pas forcément. Mais bon, je dirais que ça s'applique également aux croyants malgré tout. Mais ici, donc au verset 11, il dit comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et pourquoi je dis que ça nous parle peut-être aussi, ça peut nous parler par moments de nous, hein, en tant que croyants, parce que si vous voulez, l'image qui est donnée ici, d'une certaine manière, elle n'a pas exactement un sens réaliste pour l'insensé. Parce que si vous voulez, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Mais d'après ce qu'on a lu jusque-là, l'insensé, de toute façon, il va jamais revenir à sa folie, il est dans sa folie. Et il reste dans sa folie. Et il est incapable de sortir de sa folie. Donc, quelque part, ça laisse bien sous-entendre que l'insensé dont on parle n'est peut-être pas que une personne type qui n'est pas autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai une certaine facilité à l'appliquer à nous en tant qu'être charnel en partie. Et dans qui je suis, moi, partiellement, en tout cas en partie charnel, je suis comme cet insensé. Et peut-être que justement, l'œuvre de Dieu dans ma vie fait que je vais m'éloigner de ma folie, mais si je retourne à cette folie, je fais la même chose qu'un chien qui retourne à son vomi. Donc, je fais quelque chose qui n'est pas naturel, encore une fois, et qui n'est pas bénéfique pour personne, et là, en l'occurrence, pas bénéfique pour nous. Verset 12, il est dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Je vais juste rajouter le verset 16, parce qu'il y a donc le 4 versets qui parlent du paresseux, et ça se conclut, enfin, cette petite portion est conclue par le verset 16 qui dit, le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Donc je redis mon verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ça, c'est quand même fort. Ça veut dire quand même que se croire sage, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une petite erreur de jugement. Ce n'est pas un petit égarement passager. Ça signifie, ici, si je suis l'image qui m'est donnée, ça signifie que je suis plus fou que celui qui est fou. Je suis plus insensé que celui qui est insensé. Donc, ce n'est pas juste je m'égare un tant soit peu dans mon jugement. Ce n'est pas oui, je me prends un petit peu pour ce que je ne suis pas. Et bon, ce n'est pas très bien, mais bon, ça va, il y a plus grave. Non, 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 c'est très grave. C'est très grave parce que ça me détourne au fond de mon cœur d'une vision correcte de la vie, de moi, des autres, et bien entendu, point de départ, de Dieu. Et à partir de là, il n'y a rien qui peut fonctionner correctement. Et c'est pour ça que les gens, ils ont l'impression de marcher un peu sur la tête dans cette vie. Et des fois, pour oublier que l'on marche sur la tête et que la vie n'a pas de sens de la manière dont je la vois et je la conçois, là je ne parle pas des croyants, pour le coup je parle plutôt des non-croyants, eh bien on s'attache à des fables, on s'attache à des choses qui sont pas importantes, à des futilités, voilà, on a nos petits jeux, on a nos, etc., etc. Au lieu de réfléchir un petit peu en profondeur. Dernièrement, j'écoutais à mon boulot des gens qui, bon, certains en tout cas se disent athées, et d'autres se disent, en tout cas, pas nécessairement chrétiens, peut-être croire vaguement qu'il y a un Dieu, peu importe, mais des gens qui affirment quelque part que tout est écrit d'avance, il y a un destin, qui vont croire que, tiens, la chose qui était racontée, là, par exemple, c'était, oui, tu sais quoi, une fois, je cherchais mes clés ou je sais pas trop quoi. Et en fait, j'ai prié mon père qui est mort et j'ai eu une idée que j'aurais pas eue qui m'est venue et j'ai retrouvé mes clés. Bon, en fait, vous êtes insensé. D'un côté, vous voulez pas croire à un Dieu qui se révèle et qui dit des choses, on va dire, précises. Et vous vous attachez à des chimères, à des trucs qui sont pas démontrés, pas prouvés, pas renouvelables, qui repose sur rien. En fait, ça montre quoi? Ça montre que l'être humain est spirituel et a une recherche d'ordre spirituel. Et quand il refuse de rechercher Dieu à l'endroit où il est, c'est-à-dire dans la Bible, eh bien forcément, il va rechercher cette spiritualité, une forme de spiritualité dans des chimères, dans des amusements, dans des superstitions. C'est drôle, on est à une époque où on dit, ouais, maintenant on est scientifique, on est rationnel, on est machin, on va pas croire des histoires de bigots, etc. Et en même temps, les gens sont superstitieux. Alors, ils sont souvent pas superstitieux comme peut-être dans les siècles passés de ne pas marcher sous une échelle ou des choses comme ça, mais ils vont placer leur superstition ailleurs. Et c'est de la folie. C'est de la folie, ça n'a pas de sens et ça n'atteint pas de but. Ça n'atteint même pas le but que quelque part inconsciemment, ils recherchent eux. Parce qu'ils recherchent une profondeur spirituelle et forcément, ils ne vont pas dans une profondeur spirituelle, ils vont dans du vide. Hein. Alors on va continuer. Donc le paresseux, juste dire en deux mots, le paresseux, lui, il se raconte des histoires. Il se donne des excuses parce que justement, quelque part, il n'a pas envie d'atteindre le but. Donc voilà, on sait bien ce qu'est un paresseux de manière très simple dans le langage courant. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'efforts et pour ce faire, il se raconte des histoires. Et là, c'est pareil. Ne pas faire le minimum d'efforts qu'il pourrait y avoir pour rencontrer celui qui peut pourvoir mes besoins. Ensuite, il est dit, on va pas s'arrêter juste commenter rapidement, mais je trouve ça intéressant malgré tout, verset 17, comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Ça, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je trouve ça assez intéressant déjà, l'image qui est donnée. Nous sommes un passant, enfin là, il est décrit du moins un passant, et il va intervenir ou s'arrêter sur une querelle qui ne le concerne pas. Et quand il fait ça, c'est exactement, ici il est dit la même chose, que de saisir un chien par les oreilles. Saisissez un chien par les oreilles, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le demande. Qu'est-ce qui va se passer si vous saisissez un chien par les oreilles, surtout si c'est un chien qui n'est pas le vôtre et qui ne vous connaît pas? Vous imaginez un peu la suite. Il y a des crocs qui vont sortir, ça va se passer plutôt mal. Eh bien, c'est très intéressant cette image parce que ça veut dire ça veut dire deux choses. Ça veut dire que nous devons peut-être nous occuper de nos oignons, d'une part, et deuxièmement, nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Donc, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des controverses, des problèmes dans cette vie qui, en fait, ne nous regardent pas nécessairement. Et donc, nous ne sommes pas appelés à régler les problèmes qui se retrouvent là devant nous parce qu'on est au courant ou on passe devant, etc., etc. Vous voyez? Et donc, ça, c'est assez intéressant et avec une image qui est, je pense, parlante parce que cette image nous montre que d'avoir cette attitude qui, au départ, peut venir d'une bonne intention, peut nous attirer des ennuis qui n'ont rien à faire dans notre vie. On ne devrait pas se retrouver devant ses ennuis parce que je n'ai pas attiré les oreilles du chien. Eh bien, il y a des choses qui ne me concernent pas, je n'ai pas à m'en occuper, je n'ai pas à me croire ou avoir l'impression de devoir porter le monde sur mes épaules et trouver des solutions pour tout le monde. Voilà. Et ça peut être vécu à l'échelle de l'Église et ça peut être vécu à l'échelle de toute notre vie, avec tous les types de relations que nous avons. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous le lis juste en passant, ça me paraissait intéressant. Ensuite, je vais un petit peu sauter. À partir du verset 20, on va juste lire trois versets et puis on va basculer sur une forme de conclusion un petit peu. Donc au verset 20, il dit, faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc là, il nous est fait une forme de promesse. Quand on ne rapporte pas les secrets, quand on ne rapporte pas les choses qui ne nous concernent pas ou qui n'ont pas à être répétées parce que nous n'avons pas l'autorité pour les répéter, ou alors nous ne les disons pas aux personnes qui sont autorisées à les entendre, Eh bien, si nous ne faisons pas cela, faute de bois, le feu s'éteint. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que ça signifie que quand je rapporte des choses qui me sont dites et que je devrais peut-être même pas écouter ou que je devrais pas entendre, et en tout cas, je dois sûrement pas avoir à les rapporter, à les colporter et à les transmettre à d'autres, ou alors des choses peut-être que c'est normal que je les entende, mais peut-être que je les dis à des gens qui n'ont pas à l'entendre. Eh bien, donc ce qui nous est dit ici, c'est que donc c'est de pas de faire, mais ça signifie une chose, c'est que si je fais ça alors que je ne dois pas le faire, en fait, ça signifie que j'ai envie d'alimenter un feu. Ça signifie que j'ai l'intention d'alimenter un feu. Puisque si je fais l'inverse, faute de bois, le feu s'éteint. Donc pourquoi est-ce que je le fais? Parce qu'en fait, j'ai envie d'alimenter un feu qui n'est pas bon. Ensuite, il est dit, le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Verset 22, les paroles du rapporteur sont comme les friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et ça, c'est intéressant parce que ça signifie que les paroles du rapporteur, j'ai l'impression qu'elles vont me nourrir, puisque c'est une friandise qui va jusqu'au fond des entrailles. C'est comme, j'ai un problème avec l'alimentation. Je dois me dire, en fait, il n'est pas bon pour mon alimentation, pour ma santé, pour mon poids, etc. Il n'est pas bon de grignoter des choses. Il est bon de manger des repas à heure fixe et avec un certain nombre d'éléments à l'intérieur de ces repas. Hein? Et donc, si je mange des bonbons toute la journée au lieu de manger des repas normaux, je vais être mal nourri. Et toute la chose, elle se passe ici. La question, c'est comment est-ce que je m'alimente, pour le coup, de manière spirituelle? Et c'est là où je veux revenir sur Luc 7, pour dire une chose, pour dire effectivement que donc il y a ces trois personnes qui sont en nous, et pour dire que, en fait, en nous, donc, il y a Simon, enfin, pour rester dans le contexte de Luc chapitre 7, et de cette histoire, il y a Simon le pharisien qui n'est pas le bon personnage, et qui représente en tout cas une facette de la chair. Il y a cette femme pécheresse qui, dans l'histoire, représente le bon personnage, mais en même temps, ce bon personnage, il est quand même pécheur, il est quand même de mauvaise réputation, il n'est pas trop bien accepté par les gens autour. Donc, c'est quand même une facette de la chair, malgré tout. Et c'est intéressant parce que, vous savez, vous avez en Matthieu 21, si je ne me trompe pas, une parabole que Jésus raconte où il dit, un père avait deux fils. Il dit à l'un, va travailler à ma vigne. Le fils lui répond, oui, je vais y aller, et il n'y va jamais. Et il va voir le deuxième fils, il lui dit la même chose, va travailler à la vigne. Et le deuxième fils, il dit, non, non, je ne vais pas y aller, ça ne m'intéresse pas. Et plus tard, il va se repentir et il va y aller. Et la question de Jésus, c'est, qui a fait la volonté de son père? C'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est celui qui a dit je ne vais pas y aller et qui finalement il se repent, il y va. Mais ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est qu'il n'y a pas le troisième personnage. Celui à qui le père va dire va travailler à ma vigne, qui dit oui papa et qui y va. Celui-là, il n'existe pas. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ce que je vous bassine depuis un petit moment avec Luc chapitre 7, c'est que celui-là, le personnage, il existe en nous. C'est Jésus. Et du coup, la chose qui est importante, c'est de savoir que les trois personnages habitent en nous, d'être conscient que la chair en moi, elle est aussi stupide, débile, avec un non-sens, avec une non-efficacité, avec un non-but que ce que l'on voit dans les différents caractères qui sont décrits dans le Proverbe 26 que nous voyons ce soir, mais c'est aussi de savoir qu'il y a le troisième personnage qui habite en moi et il s'appelle Jésus. Et la question, ce n'est pas de déterminer et de se focaliser sur est-ce qu'aujourd'hui je suis plutôt Simon le pharisien ou la femme pécheresse ou encore une autre caractéristique de la chair. Ça peut avoir un certain intérêt, mais pas forcément pour se changer soi-même. La chose qui est importante, c'est plutôt de se dire qu'aujourd'hui, je sois plutôt en train de glisser dans le caractère du pharisien, ou dans le caractère de la femme, voilà, pécheresse, ou dans une autre facette de la chair, peu importe. La question, c'est à qui je parle. Parce que dans Luc chapitre 7, il y a les trois personnages. Mais, comment dire, Simon ne parle jamais à la femme qui a une mauvaise réputation. Et la femme qui a une mauvaise réputation ne parle jamais à Simon. La discussion, elle est toujours entre Jésus et un des personnages. Et en moi, j'ai besoin de savoir qu'il y a les trois personnages et j'ai besoin qu'il y ait une conversation avec Jésus, pas avec l'autre. En moi, vous savez, souvent, ce qui fait que nous restons dans des travers, ce qui fait que nous fonctionnons dans la chair, ce qui fait que nous avons un sentiment d'inefficacité et de non-sens, c'est que nous marchons trop souvent selon la chair et nous marchons trop souvent selon la chair. Pourquoi? Parce que, en fait, en moi, je crois qu'il y a deux personnages, comme j'ai dit l'autre jour, la chair et l'esprit. Et les deux discutent. Le problème, c'est que même l'esprit en moi, c'est encore un homme charnel. C'est encore un homme qui est là, en fait. Ce n'est pas, enfin, Jésus est un homme, mais ce n'est pas Jésus. C'est encore des pécheurs qui discutent ensemble. Donc, en fait, c'est une facette de la chair qui discute avec une facette de la chair. Et du coup, je cherche à faire le bien dans ma vie en faisant discuter à l'intérieur de moi l'aspect pharisien avec l'aspect pécheur. Et mais cette discussion-là, elle n'a aucun intérêt. Parce que, en fait, elle va arriver à quoi? À soit le pharisien a raison, et je vais fonctionner dans le légalisme, et essayer de trouver Dieu sur ce chemin-là qui ne va pas aboutir, soit ça va être l'aspect pécheur et péché qui va, on va dire, dominer et éteindre l'aspect pharisien, mais le résultat, ça va être pareil, une nouvelle fois, une séparation d'avec Jésus. Parce que le chemin du péché n'est pas le chemin de la vérité. Le chemin du péché n'est pas le chemin qui me mène à Jésus. Alors le chemin du légalisme ne l'est pas, mais le chemin du péché non plus. Et par contre, quand j'ai tendance à pencher d'un côté ou à pencher de l'autre, ma discussion, elle doit être avec Jésus. Je me repens auprès de Jésus. Je parle de mes problèmes à Jésus. Je parle de mes limites, de mes incapacités, de mes incompréhensions, de mon sentiment d'injustice, de mon sentiment de non-sens. J'en parle à Jésus et je sais qu'il habite en moi. J'en parle pas à différentes facettes de qui je peux être dans ma chair. Cela n'a aucun intérêt en fait. Voyez? Donc ça c'est la chose. Et je voulais juste dire une chose, c'est que ceci se traduit de manière concrète comment? Avec comment dire, une méditation qui est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, comment dire, je vais vous prendre un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, vous n'avez pas vu, vous avez entendu parler. Dans les années 80, il y avait quelques films qui ont été faits. Avec donc un personnage, un acteur qui s'appelle Stallone, et c'était la série des Rocky, c'était des combats de boxe, enfin bref, etc., etc. Et en fait, ce qui se passait généralement dans ces combats de boxe et dans l'histoire qui était là-dedans, c'est que ce Rocky, c'était pas forcément le plus fort au départ, mais c'est le gars qui gagnait à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il gagnait? Eh bien, il gagnait pour une seule raison. C'est ce qu'on voit à chaque fois à travers chacun des films. C'est que ce Rocky, ce boxeur, en fait, il s'accrochait pour arriver à la fin du round. Vous savez, un combat de boxe, ce sont des séquences de 3 minutes. Les deux gars se tapent dessus pendant 3 minutes. L'arbitre arrête. Chacun va dans son coin. On reprend son souffle. On nettoie. On boit un petit coup. Et on repart, il y a le gong et on repart pour 3 minutes. Et il y a une série de 12 ou 15, ce qu'on appelle des rounds, donc des reprises de 3 minutes. Et en fait, ce qui fait que ce gars a gagné, c'est qu'il arrivait à chaque fois à s'accrocher jusqu'à la fin du round, jusqu'à la fin des 3 minutes, pour arriver jusqu'à sa chaise et pour pouvoir se battre les 3 minutes suivantes. Et il allait de 3 minutes en 3 minutes. Et ce que je veux vous dire, c'est que Jésus en nous, qui cohabite avec différentes facettes de la chair, l'autre solution, c'est de s'accrocher, d'aller de ronde en ronde. C'est-à-dire qu'il y a des reprises où on va en prendre plein la tronche, comme on dit. Et peut-être que la reprise après, on va encore prendre plein la tronche. Mais aujourd'hui, là, je suis dans la séquence de ces 3 minutes. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de m'accrocher à Jésus pour aller jusqu'au bout des 3 minutes, aller m'asseoir, reprendre mon souffle et y retourner. Et c'est en faisant comme ça que lui, dans le bon, c'est l'histoire, c'est de la boxe, c'est un film, c'est ce que vous voulez. Mais en tout cas, d'un point de vue psychologique, c'est ce que nous avons besoin. Vous savez, une chose que je me dis, il y a des gens, ils sont suicidaires parfois. Et la chose qui peut faire qu'ils ne vont pas passer à l'acte, c'est ces 3 minutes. C'est se dire, l'orage est en train de passer, et je considère que l'orage est en train de passer, et je m'accroche à quelque chose pour que l'orage passe. Et donc, je ne vais pas ouvrir la fenêtre pour me jeter, je ne vais pas prendre un couteau pour me couper les veines ou prendre des cachets ou j'en sais trop rien. Pourquoi? Parce que je vais quelque part résister en m'accrochant à quelque chose pendant quelques minutes. Et la parole de Dieu, je dirais quelque part dans notre vie, de manière peut-être moins dramatique, mais quelque part spirituellement, ça, il peut y avoir une forme de suicide spirituel quelque part. C'est la même chose. Il y a besoin que cette parole, elle soit vivante, vivifiée par Jésus, du coup en nous, pour que nous puissions nous accrocher et aller jusqu'à ce qu'il y ait le gong de l'arbitre qui fait qu'on va s'asseoir et qu'on va pouvoir reprendre notre souffle et passer au round suivant. Et ainsi de suite. Et en fait, à la fin, c'est nous qui allons gagner. Pourquoi nous allons gagner? Parce que la victoire nous a été promise. Et peut-être qu'il y a des gens dans la vie chrétienne, et bien peut-être qu'effectivement, ils vont en prendre plein la tête, reprise après reprise, mais ils vont s'accrocher et ils ont une promesse. C'est qu'à la fin, c'est eux les vainqueurs. À la fin, c'est eux qui seront habillés avec un vêtement blanc, un vêtement de fin lin blanc. C'est eux qui seront revêtus de la justice. C'est eux qui vont passer l'éternité avec le seul qui vaut le coup. Ce ne sera pas ceux qui auront trouvé des artifices, qui auront ouvert la fenêtre, se seront ouvert les veines, ou qui auront été eu plein de bravade, d'orgueil, ou je ne sais pas quoi. Et nous, on a besoin d'avoir cette vision à long terme et à court terme. À long terme, je vais recevoir des couronnes. Et à court terme, j'ai besoin d'aller jusqu'au gong. J'ai besoin de m'accrocher jusqu'au gong. Et je vais m'accrocher comment? Avec la Bible, la parole que Dieu me dit, en la croyant, en m'y accrochant, en m'appuyant dessus. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons rien d'autre. Les seuls arguments que nous avons, c'est Jésus qui habite en nous, c'est une promesse pour l'éternité, et s'accrocher avec la parole de Dieu. Amen.